Bibliothèque Orbitale. Épisode 10. D'épisodes précédents, la situation est grave et même désespérée. Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, est toujours coincé sur Howard 17, un monde à ce point archaïque et misérable qu'une brouette sans roue ou une fourchée dentée y sont considérés comme des produits de luxe. La route qui doit mener Pitou jusqu'à son vaisseau spatial, le tamanoir photogénique, n'est pas de tout repos. Son affrontement contre une horde de barbares armés jusqu'aux dents lui a laissé quelques traces. Rotule écrasée à coups de masse, foie et rein perforés par une hallebarde perdue, trois doigts tranchés par un sabre manié avec négligence, énucléé et une oreille arrachée, le medikit de Pitou tourne à plein régime, ce qui devrait lui éviter toutes séquelles durables, certes, mais ça picote quand même un peu. Fourbu et boitillant, Pitou pensait trouver refuge dans un village proche. C'était sans compter sur la peste bubonique qui fait ravage en ces lieux. Malgré une fuite précipitée, accompagnée de la décapitation de quelques autochtones un peu trop affectueux, c'est un Pitou fiévreux et asthénique que l'on retrouve errant à travers la campagne. Alternant consommation de baies sauvages et diarrhées sauvages elles aussi, Pitou sent peu à peu ses forces l'abandonner et le désespoir le gagner, lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur, malgré une consommation de vodka à même d'impressionner le moins ascète des Polonais, conserve tout juste ce qu'il faut de lucidité pour traiter coup sur coup Mordre le bouclier de Justine Yeogrey, Black Death de Christopher Smith et Tortuga de Valerio Evangelisti. Résumé de l'épisode précédent. L'an dernier, avec son premier roman « Chien du Home », Justine Yeogrey décrochait coup sur coup le prix Imaginal et le Grand Prix de l'Imaginaire. Et c'est bien fait pour elle. Le fait est que, malgré quelques petites imperfections, il s'agissait d'un sacré bon bouquin, remarquablement bien écrit, ce qui ne gâche rien, et mettant en scène une teigneuse comme on en a peu souvent croisé. Après s'être quitté en si bons termes, on était donc plutôt impatient de revoir en action cette demoiselle Chien du Home, et un peu aussi son auteur. Les retrouvailles se nomment donc Mordre le bouclier et, alléluia, s'avère être à la hauteur de nos espérances. Comme pour le précédent, le roman s'appuie sur une intrigue des plus simples, en l'occurrence sur le désir de vengeance de Breyir, personnage de guerrière déjà rencontré dans le premier volume, et que Chien va accompagner dans son voyage. Une intrigue prétexte qui permet à Justine Yeogrey de développer en toute liberté ses personnages et leur univers. Commençons justement par parler de cet univers, ce Moyen-Âge réinventé où il ne fait pas du tout bon vivre, alternant hiver meurtrier et été poisseux, ville sordide et campagne crasseuse, et où la vie y est en général aussi brève que douloureuse. Justine Yeogrey parvient incroyablement bien à donner corps à ce monde, à nous le faire ressentir physiquement. Et ces personnages sont le pur produit d'un tel monde, durs, hargneux, increvables, et d'une violence terrible dans leur rapport avec leurs congénères. Il y a dans Mordre le bouclier des éclats de violence assez sidérants. Là encore, avec cette même précision qui fait toute sa force, la romancière nous fait ressentir la souffrance des corps jusque dans ses plus intimes détails. Et pourtant, malgré les plaies ouvertes, les membres écrasés et autres effets secondaires du fracassage de tronche à coups de hache, on ne sombre jamais dans le grand guignol non plus. Justine Yeogrey réalise à chaque fois un joli numéro d'équilibriste et parvient à trouver le ton juste. D'ailleurs, toute son écriture repose en permanence sur ce sens de l'équilibre, du bon dosage. Il suffit de voir comment elle emprunte à l'ancien français juste ce qu'il faut de termes et de tournures grammaticales pour donner davantage de poids à la réalité du monde moyenâgeux qu'elle décrit, sans jamais rendre la lecture du roman pénible, bien au contraire. Une vraie funambule, quoi. Par rapport à Chien du Home, Mordre le bouclier est plus statique, plus contemplatif. Ces deux personnages principaux y passent beaucoup de temps à s'interroger sur le monde qui les a vus naître, et sur un passé qui ne cesse de les hanter. Au final, l'une comme l'autre y gagne en humanité et en profondeur ce que le roman perd en dynamisme, mais le lecteur, lui, n'y perd pas au change. Bref, Justine Yeager confirme donc tout le bien que l'on pouvait penser d'elle à la lecture de Chien du Home. Quelque part entre un Jean-Philippe Jaworski pour la justesse avec laquelle elle construit et décrit son univers, et un Thierry Dirolo pour l'âpreté et la noirceur de ses personnages, elle se place sans problème parmi les meilleurs auteurs de fantasy français, ceux que l'on est prêt à suivre partout où ils choisiront d'aller. Les influences de Justine Yeager, on en trouve certaines du côté du cinéma. On pense bien évidemment à La chair et le sang, le chef-d'œuvre de Paul Verhoeven, pour sa reconstitution méticuleuse d'un Moyen-Âge garanti 0% chevaleresque. On pense aussi au récent Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn, d'autant plus que Justine Yeager le cite en exergue à l'un des chapitres de son roman, et qu'on y retrouve cette même alternance de poses contemplatives et de scènes coup de poing. Sorti récemment en France, directement en DVD, Black Death de Christopher Smith fait figure de parent proche de ses œuvres. Résumé des épisodes précédents, on a découvert Christopher Smith en 2004 avec Creep, excellente série B horrifique dans laquelle une connasse se faisait poursuivre à travers les tunnels du métro et les galeries des égouts par un des plus beaux tueurs qu'on ait croisé au ciné ces dernières années. 2 ans plus tard, dans Severance, il envoyait dans une forêt d'Europe de l'Est un petit groupe d'employés de l'industrie de l'armement se faire trucider par quelques paramilitaires champêtres. Et puis, il y a surtout Triangle, datant de 2009, mais qui vient seulement de sortir en France, là encore directement en DVD, et dont je ne vous dirai strictement rien, si ce n'est que c'est à voir absolument, et que moins vous en saurez avant, meilleures seront les baffes que vous vous prendrez tout au long d'un scénario vicieux comme j'en ai trop peu vu. Mais revenons à Black Death. Situé au XIVe siècle en pleine épidémie de peste, il met en scène un petit groupe de guerriers chargés de se rendre dans un village qui semble avoir été miraculeusement préservé de l'épidémie. Ils sont accompagnés par un jeune moine, fort respectueux des règles de son ordre, sauf à chaque fois qu'il lui prend l'envie d'aller lutiner une jeune paysanne de sa connaissance. Parmi les nombreuses qualités du film, il y a d'abord un casting impeccable, de Sean Bean, parfait en chef de meute, à Eddie Redmayne dans le rôle du candide qui va s'en prendre plein la tronche pendant 90 minutes, en passant par une Carice Van Houten fascinante en grande prêtresse impie, et toute une galerie de second rôle patibulaire et hargneux. La réalisation, quant à elle, est nerveuse. Caméra à l'épaule, Christopher Smith filme ses acteurs au plus près et nous fait crapahuter avec eux à travers bois et marais. Par certains aspects, l'histoire rappelle assez celle de La Vallée perdue de James Clavell, remarquable film de 1971 dans lequel, en pleine guerre de religion, Michael Caine et Omar Sharif trouvaient refuge dans un petit village alpin coupé du reste du monde. Dans Black Death, la confrontation opposant les guerriers aux villageois est celle de deux mondes, l'un religieux et l'autre pas. Et le choc sera brutal, et pas seulement physiquement. Entre les deux factions, Christopher Smith se garde bien de choisir. D'ailleurs, dès qu'on commence à éprouver de la sympathie pour tel ou tel personnage, on lui découvre aussitôt une facette qui le rend beaucoup plus ambigu. Le scénario de Dario Polony déroule de façon implacable les conséquences de ce choc des mondes, jusqu'à un épilogue d'une noirceur absolue. Jetez-vous donc sans réserve sur Black Death, et même si possible sur la filmographie complète de Christopher Smith, le monsieur étant sans doute, avec Neil Marshall et Gar Wright, ce que le Royaume-Uni nous a offert de plus passionnant cinématographiquement parlant ces dernières années. Consider me their mascot, a sick Si les éditions Rivage ont cessé de publier la saga de Nicolas Heinrich il y a presque 10 ans, elles n'ont jamais abandonné son auteur, Valerio Evangelisti, dont elles ont depuis édité 2 œuvres notables, Anthracite en 2004, Western aux lisières du fantastique, et surtout en 2008, Nous ne sommes rien, soyons tout, grand roman noir social revisitant l'histoire des syndicats aux États-Unis durant la première moitié du XXe siècle, à travers le destin d'un de ces salopards qu'Evangelisti affectionne tant. Double bonne nouvelle, au moment où l'on apprend que la Volte devrait reprendre l'intégrale des aventures de Nicolas Heinrich dès la rentrée prochaine, paraît chez Rivage un nouveau roman de Valerio Evangelisti, Tortuga. Roman historique une fois encore, qui cette fois se penche sur les derniers jours de la flibuste, dans les Caraïbes à la fin du XVIIe siècle. Les histoires de pirates se trimballent depuis la nuit des temps les mêmes stéréotypes, essentiellement diffusés par le cinéma, et du Captain Blood des années 30 aux pirates des Caraïbes d'aujourd'hui. Le genre a extrêmement peu évolué. En littérature, ça donne Pirate, le dernier Michael Crichton, que viendrait éditer Pocket. Pas un mauvais roman, mais presque, et surtout un défilé de tous les clichés liés au genre. Avec Tortuga, on sent la volonté de Valerio Evangelisti de se débarrasser une fois pour toutes de tout le tralala hollywoodien lié au genre, et de restituer sa vérité historique dans toute sa brutalité. Et niveau brutalité, il y a de quoi faire. Massacre, torture, viol, exécution, l'auteur ne nous épargne aucun des petits travers de ses héros. Comme toujours, on sent que Valerio Evangelisti a effectué un gros travail de documentation, en particulier en ce qui concerne l'organisation sociale des pirates, et il semble à la fois fasciné, admiratif et horrifié par ce qu'il décrit, ce mélange de nihilisme, de violence et de liberté. Le fait est que, aussi ignobles soient les exactions commises par ces pirates, elles ne sont jamais pires que celles perpétrées par les représentants du pouvoir en place. Et dans ce contexte, ils sont le symbole d'une certaine modernité, d'un nouvel ordre à venir. Et c'est sans doute cet aspect du roman qui est le plus réussi. Ceci dit, dans son ensemble, Tortuga est quand même un peu décevant. La faute en premier lieu à une écriture falote. On ne va pas jeter la pierre à la traductrice, le fait est qu'Evangelisti n'a jamais été un grand styliste. Ici, il peine à donner du souffle à son récit, et l'ampleur qu'il mérite aux moments les plus spectaculaires qu'il met en scène. Mais l'élément le plus agaçant de l'histoire est en fait son personnage principal, Rogério de Campos, ancien jésuite portugais reconverti en flibustier. Le problème n'est pas qu'il s'agisse d'une parfaite ordure, dans un roman d'Evangelisti le contraire serait même étonnant, mais plutôt que, comparé à d'autres personnages de Tortuga, il fait pâle figure. Du coup, on a un peu l'impression d'être coincé tout au long du roman avec un type ennuyeux au possible, qui nous empêche de côtoyer autant qu'on voudrait les personnages vraiment intéressants qui l'entourent. Malgré tout, Tortuga reste un bon roman, ambitieux et à rebours des conventions du genre, même s'il est en deçà de ce qu'on était en droit d'en espérer. Hate recreated, a revelation. Listen to me, I'll tell ya I'm about to run. And the ceilings are undone. Specialized victories for overage whores. I felt up your feelings and they left me no more time to see what I want to find. Let it go. The shots in closing, the scratching road. Go there. A cell tower.